Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons faire un peu différemment, ok? Donc, je vais parler de la Bible. Qu'est-ce que la Bible? D'où vient-elle? Quand est-elle arrivée chez nous? Ok, donc c'est un message concernant la Bible. J'ai mis sur la table devant moi, j'ai mis quelques morceaux, quelques parties de notre exposition qui ont un rapport avec ce que je vais dire. Donc, il y a, bien sûr, ce sont des reproductions, mais il y a une tablette cunéiforme, une papyrus, un parchemin, un manuscrit reproduit, bien sûr, reproduction donc d'un manuscrit hébreu, la traduction la Septante, en grec, donc l'Ancien Testament en grec, par la suite le Nouveau Testament en grec, qui est soit des fois des citations de la Septante, parfois des traductions de l'hébreu, et puis comme vous savez tous dans l'Occident, on a traduit ça en latin, donc la Vulgate de Jérôme, et donc on a un exemple de ça ici, dans l'exposition, on a des reproductions donc, de Gutenberg, de Wycliffe, des traductions français, anciens français, suédois, etc. Donc, plein de choses dans notre exposition. En fait, il est important que nous soyons capables de répondre à ces questions que j'ai posées au début. Qu'est-ce que la Bible? D'où vient-elle? Comment est-elle arrivée chez nous? Non pas seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour nos amis, pour nos familles, pour nos collègues qui pourraient nous poser ce genre de questions. Donc, je donne un survol, c'est rapide, c'est une introduction à la Bible. Il y a beaucoup d'informations dans très peu de temps. Ok, donc, accrochez-vous. Pour une partie, ce sera des révisions, des choses que vous connaissez déjà, mais j'espère qu'il y aura quand même quelques éléments nouveaux pour chacun. Beaucoup de personnes aimeraient que Dieu se révèle, qu'il nous dise quelque chose. N'aimeriez-vous pas qu'il se fasse connaître? Ne pensez-vous pas que si Dieu existe, il désirerait dire quelque chose, désirerait se faire connaître? Il y a plein de monde qui se posent de telles questions. Alors, j'ai imaginé un contexte, et ce n'est pas impossible, avec Facebook et tout ça, ça pourrait en fait arriver, mais disons qu'un inconnu vous laisse un message sur votre répondeur. Voilà le message. Bonjour, je m'appelle Samantha. Je suis votre cousine. Je vous rappellerai. Voilà le message que vous trouvez sur votre répondeur. Mais vous ne savez pas que vous avez une cousine qui s'appelle Samantha. Est-ce vrai? Est-ce faux? Le message est réellement sur votre répondeur. Que vous y croyez ou pas? Je veux dire que Samantha soit votre cousine ou pas. Le message est là. Maintenant, quoi? Que faire? Croire ou ne pas croire? La Bible est ce message de Dieu sur votre répondeur. La Bible se présente comme la révélation du Créateur Dieu à l'humanité. C'est pour cela qu'elle est aussi appelée la parole de Dieu et les Écritures. Donc, on va voir déjà dans Psaume chapitre 119, et le verset 160. Là, nous lisons Psaume 119, 160. Le fondement de ta parole est la vérité. Ça veut dire que ce n'est pas un mensonge, il n'y a pas de mensonge, c'est la vérité. Et toutes les lois de ta justice sont éternel. Ça veut dire que ça ne change pas. aussi dans 2 Samuel. 2 Samuel, chapitre 7. 2 Samuel, chapitre 7, et verset 28. Maintenant, Seigneur éternel, tu es Dieu, et tes paroles sont vérité, et tu as annoncé cette grâce à ton serviteur. Aussi dans Ésaïe, le prophète, Ésaïe, après les psaumes. Ésaïe, chapitre 45. Ésaïe, chapitre 45, versets 22 et 23. Tournez-vous vers moi, et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre. Je le jure par moi-même. La vérité sort de ma bouche, et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi, et toute langue jurera par moi-même. Donc l'idée, c'est que Dieu, il a parlé. Il a un message qui s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Il veut que les gens connaissent ce message. Et donc la Bible est unique en son genre. Elle est le livre, l'unique livre. Le livre le plus ancien du monde à utilisation continue. Ça ne veut pas dire que dans l'Antiquité, il n'y avait pas d'autres livres. Il y avait. Mais voilà, ils sont oubliés. Okay? Mais la Bible est utilisée depuis toujours. Elle nous parle d'un créateur. Et de sa création. La Bible est un recueil. Ce n'est pas un seul livre, c'est un seul recueil de 66 livres écrits par une quarantaine d'auteurs. Ces livres étaient rédigés entre le 15e siècle avant Jésus-Christ jusqu'à la fin du 1er siècle après Jésus-Christ, donc une période de 1600 ans. Le premier de ces 40 hommes, choisi et préparé par Dieu, s'appelle Moïse. Donc Moïse est mort environ 1450 avant Jésus-Christ. L'Éternel s'est révélé à Moïse par une voix audible du milieu d'une buisson ardent, embrasée. Et cet esprit commande à Moïse d'enregistrer par écrit les actes et ses messages divins. Ceci est le début de l'inspiration divine des Écritures. Et nous appelons ça couramment la Bible. Dieu a validé son message qu'il a fait envers Moïse et le peuple d'Israël par de grands et de terribles prodiges qui sont surtout en Exode, mais aussi dans Nombre et Deutéronome. Sous l'inspiration de Dieu, Moïse a rédigé donc les premiers 5 livres de la Bible, et on les appelle la Torah pour dire la loi, ou le Pentateuque pour dire les 5 livres. Donc on va regarder dans Exode chapitre 17 et verset 14, juste la première partie du verset. Exode chapitre 17, verset 14. L'Éternel dit à Moïse, « Écris cela dans le livre, pour que le souvenir s'en conserve. » Et puis aussi dans Deutéronome, chapitre 31, vers la fin. Deutéronome 31, versets 24 à 26. Deutéronome, chapitre 31, à partir de verset 24. Lorsque Moïse eut complètement achevé d'écrire dans un livre les paroles de cette loi, il donna cet ordre aux Lévites, qui portait l'arche de l'Alliance de l'Éternel. Prenez ce livre de la loi et mettez-le à côté de l'arche de l'Alliance de l'Éternel, votre Dieu, et il sera là comme témoin contre toi. Ok, donc on parle déjà depuis le début de ce livre qui est la parole de Dieu. Donc c'est les premiers 5 livres de la parole de Dieu. Alors ces 40 hommes ont vécu à des époques diverses. à travers les 1600 ans, les diverses époques, et ils ont eu des expériences de vie bien différentes. Il y a un qui est un berger, un autre qui est un roi, etc. Pourtant, la Bible garde une même pensée tout au long de son parcours. Selon eux, selon ces 40 hommes, selon ceux qui ont écrit le message, cette unité est due à un seul et même esprit qui les ont poussés à écrire. Donc, Pierre dit, l'apôtre Pierre, c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu, dans 2 Pierre 1:21. Donc, on regarde aussi dans l'Apocalypse. Hein, pourquoi pas, Apocalypse, chapitre 1, verset 11. Et là, nous lisons, juste une partie du verset, « Ce que tu vois, donc Jésus qui parle à Jean, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises. » Donc, toujours l'Esprit qui parle et dit « Écris ». Aussi dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 40, 1 Corinthiens chapitre 7 et verset 40, dans le bon livre. Verset 40, à la fin du verset, donc Paul dit certaines choses et puis il parle de ce qu'il est en train de dire. Il dit, et moi aussi, je crois avoir l'Esprit de Dieu. Donc il écrivait tout en sachant que c'est par inspiration qu'il produit ces mots. L'auteur, on parlait des 40 hommes qui ont manuellement écrit le texte de la parole de Dieu, mais l'auteur véritable de ces livres qui sont dans la Bible, c'est cet esprit. Et oui, des centaines de fois dans la Bible, elle se proclame être la parole de Dieu. Regardons aussi dans 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3, verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Et puis je finis la phrase, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Un des thèmes principaux du message de Dieu, c'est la nécessité d'un sauveur pour nous délivrer de nos péchés. Ce n'est pas la seule chose qui est dans la parole de Dieu, mais c'est vraiment un des sujets les plus importants. Dieu a préservé sa parole à travers tous les siècles, jusqu'à nos jours, pour qu'on puisse avoir ce message. Je vais parler maintenant un peu de l'inspiration et la préservation de la Bible. Comme je vous ai déjà dit, la Bible est un livre unique. Elle est le produit de l'inspiration, Dieu qui souffle et porte les hommes qui ont écrit ces mots. Elle est le produit de l'inspiration de Dieu. Elle est une révélation de la part du Créateur qui s'est adressé à nous, à l'humanité, nous dans notre péché. Elle est comme une lettre d'amour à sa bien-aimée. Donc, nous pouvons remercier Dieu, premièrement, d'avoir communiqué avec l'humanité. Il n'était pas obligé de le faire. Il l'a fait. Seconde, d'avoir fait enregistrer cette communication. Il aurait pu simplement parler et voilà, le message était perdu à la mort de chacun. Non, il a fait enregistrer. Et troisième chose, nous pouvons remercier Dieu d'avoir préservé à travers les millénaires son message. Et aujourd'hui, la Bible est traduite dans plus de 2800 langues. Oui, Jésus a promis dans Matthieu 24, verset 35, que ses paroles ne disparaîtront jamais. Il a dit, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Amen. Ce qui vient après l'inspiration, donc le premier texte qui sort carrément des droits, là, de main de l'apôtre, c'est la transmission de la parole de Dieu. Le texte est inspiré et puis il s'est transmis jusqu'à nos jours. Alors je vais je vais dire, ce qui n'est pas transmis périt. Et là, c'est en règle générale. Ce qui n'est pas transmis périt. La réalité en ce qui concerne la transmission des livres de l'Antiquité, donc toutes choses confondues, c'est que la plupart de ce qui a été écrit a disparu depuis longtemps. OK? Même les lettres que vous avez reçues dans le courrier la semaine dernière, probablement la plupart sont déjà dans la poubelle. C'est la même chose. Tout ce qui était fait dans l'Antiquité, dans la grande majorité, ça n'existe plus. Je vais faire une citation. Donc, en parlant de la Syrie, okay, la Syrie sous le régime romain, donc ça fait 2000 ans, okay, l'historien laïque Will Durand a écrit « Érudits et savants ne manquaient pas ». Donc, à cette époque-là, ce n'était pas impossible que, voilà, il y avait plein de livres de littérature qui existaient à ce moment-là. « Érudits et savants ne manquaient pas ». Leur renommée momentanée courait le monde. Donc, il donne comme exemple Nicolas de Damas, qui, il dit, ne fut pas seulement le mentor d'Antoine et de Cléopâtre et de Hérode, mais il entreprit la lourde tâche d'écrire une histoire universelle. Et il parle donc de cet homme, Nicolas de Damas, et dit, « Tous ses ouvrages ont été engloutis par le temps charitable. » Donc on connaît que cet homme a existé par les écrits de quelqu'un d'autre, mais on n'a rien qui reste de cet homme-là. Puis, sur une note humoriste, il dit, « Apparemment, il en fera autant des nôtres. » C'est-à-dire, M. Durand, il sait que son série de civilisations en 32 volumes va disparaître aussi, comme tous les livres de l'Antiquité. En contraste radical par rapport à la plupart des livres de l'Antiquité, le texte d'origine de la parole de Dieu a été abondamment transmis, étant confirmé aujourd'hui par quelques 25 000 manuscrits en grec, en latin et encore d'autres traductions anciennes jusqu'à la fin du 5e siècle après Jésus-Christ. Il faut donc remarquer, qu'on soit croyant ou pas croyant, d'accord, il faut remarquer et reconnaître la transmission et préservation extraordinaire. Donc, ordinaire, c'est tout ce qui est englouti, qui est disparu. Ça, c'est ordinaire. Il y a certains livres, comme Lévi et Pluton, etc., qui étaient un peu transmis. Donc, l'Iliade, le plus de manuscrits, c'est l'Iliade, il y a peut-être 900, je ne sais pas, à peu près. Mais la Bible à 25 000, c'est vraiment trop. C'est même gênant. Il y a tellement de manuscrits de la Bible. C'est extraordinaire, sinon miraculeux. Donc, ceux qui ne croient pas, du bon mot, le miracle n'existe pas. Donc, c'est simplement extraordinaire. C'est extraordinaire et c'est miraculeux. Le fait que le texte biblique est là et atteint presque la perfection. Même si quelques-uns des manuscrits parmi ces 25 000 que je viens de mentionner, même s'il y a quelques manuscrits qui étaient mal copiés, ou mal préservé, hein, les manuscrits de la mer morte, il y a c'est beaucoup de poussière, hein, donc c'est mal préservé. Mais ça ne veut pas dire que tout est mal préservé, il y a quelques-uns qui sont mal préservés. Mais il sera irrationnel de prétendre que le texte biblique aurait été corrompu. Ça, c'est incompréhensible. Non, ce n'est pas vrai. Ainsi, que l'avait dit Jésus, aucune parole de l'Écriture sainte n'a jamais été perdue. Elles sont encore toutes là, aujourd'hui, parmi les manuscrits. Maintenant, pendant quelques minutes, regardons de plus près cette transmission de la parole de Dieu. Okay? L'art d'écriture existe depuis plus de 5000 ans. Donc, comme j'ai dit, il y a le cunéiforme, on écrivait. Donc, cette cunéiforme-là reproduit un courrier, hein, parce que c'était écrit sur une tablette d'argile. un courrier de Canaan qui devait être envoyé au prince en Égypte pour demander l'aide parce qu'il y avait des Abirous qui attaquaient. OK? Eh bien, le courrier n'a été jamais envoyé et les archéologues l'ont trouvé enfoui dans le travail. OK? Depuis le commencement de l'écriture, donc, on écrivait, comme je viens de dire, sur les tablettes d'argile, sur la pierre, comme les 10 commandements sur la pierre, des morceaux de poterie cassés, sur les parchemins, il y a un parchemin là, sur le papyrus, sur le papier, sur l'ordinateur et encore maintenant sur les tablettes. Moïse était le premier écrivain biblique. Là, c'était il y a 3500 ans. Il a écrit les premiers 5 livres de la Bible. Alors, comme la plupart des peuples de l'Antiquité, Moïse a écrit sur les parchemins, qui étaient cousus, on écrivait sur la feuille, et on cousait encore le prochain, et puis le prochain, et puis le prochain, pour faire les longs rouleaux. C'était le style de l'Antiquité, et ça pouvait atteindre jusqu'à 40 mètres. Donc, un rouleau pourrait être jusqu'à 40 mètres. Au temps de persécution, les Juifs enterraient les manuscrits en Terre Sainte. Ils appelaient ça Terre Sainte. Et on pense que certaines des grottes de la mer Morte étaient justement des Terres Saintes. La première traduction de la Bible hébraïque a été faite en langue grecque en Alexandrie, dans le nord de l'Afrique, il y a 2300 ans, pendant le 3e siècle avant Jésus-Christ. Cette traduction s'appelle la Septante. Donc, on a un exemple là. Lorsque le Nouveau Testament fait une citation de l'Ancien Testament, donc le Nouveau Testament, emprunte souvent une partie de la version de la Septante, parce que c'était déjà en grec. Parfois, les citations viennent directement de l'hébreu, mais ce n'est pas une traduction écrite, mais une traduction que, voilà, Paul ou quelqu'un regarde et il lit le hébreu et puis il traduit directement pour nous dans le Nouveau Testament. Après l'ascension du Seigneur Jésus, le Saint-Esprit a poussé certains disciples à rédiger les divers écrits que nous avons devant nous dans le Nouveau Testament. Mais au début du christianisme, tout au début, ces écrits inspirés circulaient sur papyrus comme des œuvres indépendantes, copiées de l'original avant que ce dernier était passé à la prochaine communauté. Alors, il y avait beaucoup de littérature qui se passait entre les églises, tous les documents du Nouveau Testament. Donc, on peut lire dans Colossiens chapitre 4. Colossiens chapitre 4, verset 16. Là, nous disons, lorsque cette lettre, donc la lettre écrite par Paul aux Colossiens, lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église des Laodicéens. Et que vous lisiez, vous là à Colosse, que vous lisiez à votre tour celle, donc la lettre, qui vous arrivera de Laodicée. Donc c'est supposé que c'est l'épître aux Éphésiens. Paul a écrit aux Éphésiens et il a écrit aux Colossiens. C'était à peu près le même moment. Il a écrit les deux lettres, mais il voulait que les lettres passent d'église à église. Aussi dans 2 Timothée chapitre 4 et verset 13, où nous lisons, quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus et les livres, surtout les parchemins. Donc, on pense que ça, c'est les lettres des documents bibliques. Alors, le texte bibliques, enfin je devrais dire les textes bibliques originaux, ont dû être recopiés en assez grande quantité pendant les premiers 3 siècles du christianisme. Pourquoi? Parce que les autorités romaines persécutaient les chrétiens et cherchaient systématiquement à détruire les livres sacrés. Et en dépit de toute cette destruction, donc parfois très acharnée, eh bien la Bible est parvenue jusqu'à nous, quasiment inchangée dans les langues d'origine. Progressivement, à travers les premiers 5 siècles, les rouleaux que j'ai mentionnés tout à l'heure, qui pouvaient atteindre jusqu'à 40 mètres, les rouleaux ont été remplacés par ce qu'on appelle les codex, comme forme de littérature. C'était la technologie de l'époque. Okay? Un codex reliait les pages ensemble, cousues sur la gauche, comme ça, sur la gauche, et nous disons un livre. Voilà. À l'époque, on disait un codex. Ainsi, donc, c'était une invention de faire une reliure à gauche là. Ainsi, dans le 3e siècle, les documents du Nouveau Testament commençaient à être regroupés, donc circulés, non plus comme documents indépendants, mais en regroupés en codex. Soit évangile, soit épître de Paul, soit épître généraux, plus les actes ou l'apocalypse qui étaient ajoutés à un de ces groupes-là. Tandis que en Empire romain oriental, donc là dans le Constantinople, etc., la Bible continuait à être recopiée en grec et traduite dans les langues comme la géorgienne et l'arménienne. Mais en Occident, le latin a prévalu parmi les autres anciennes traductions et a gardé sa place pendant les siècles. Au moment de la Renaissance, donc parmi ces moments de l'histoire au 15e siècle, la nouvelle technologie de Johannes Gutenberg a rendu bien plus efficace l'art de l'imprimerie. Son savoir-faire pour utiliser les caractères mobiles en plomb pour imprimer les pages marquait la fin de la transmission manuelle, donc le manuscrit manuel, qui avait été utilisé depuis plusieurs millénaires, depuis presque des bouts de temps qu'on écrivait. C'était encore une grande révolution technologique, plus importante que le codex. Désormais, notre compréhension, je veux dire nous, vous et moi, notre compréhension du monde sera transformée par cette technologie. Notre époque de perfectionnisme informatique n'a rien à voir avec l'homme romain et médiéval. Pour nous, la reproduction en milliers d'exemplaires identiques, c'est la norme. Mais avant l'invention de Gutenberg, à l'époque des livres reproduits à la main, chaque exemplaire était unique avec ses quelques erreurs et très cher. Un livre, un seul livre avec le relire et tout ça, représentait parfois un travail d'entre 1 et 3 ans partagé parmi plusieurs personnes. Vous imaginez payer le salaire de plusieurs personnes pour 3 ans. C'était cher. Alors, en 1516, on a la publication du texte grec imprimé. Pas publication simplement, mais imprimé en grand nombre. Une année avant la Réforme, Érasme a publié le Nouveau Testament en grec, publié en grand nombre, sur la base d'un petit nombre de manuscrits qu'il avait comparés pour établir son texte à imprimer. Okay? Un peu plus tard, 1550, Robert Estienne, donc on dit Stéphanus, qui était imprimeur pour le roi de la France, lui a sorti une nouvelle édition du livre d'Érasme Donc, il a ajouté dans son édition, en bas de page, les différences qui se trouvaient dans 15 manuscrits. Et cela dans le souci de perfectionner le texte grec. Okay? Le texte grec imprimé. Pour nous les modernes, bon, nous qui sommes tellement habitués à la perfection moderne dans tout ce qui est écrit, okay? Nous sommes choqués. Vous le reconnaître. On est choqué par l'existence des fautes ou des disparités, ou on dit des variantes, parmi les manuscrits bibliques. Eux, à l'époque, manuscrits n'étaient pas choqués parce que c'était humain, c'était la réalité. Mais nous, on est choqués, on ne comprend pas. Parce que pour nous, on regarde peut-être 10 000 personnes regardent la même page sur Internet, ils voient tous la même chose. En réalité, la grande majorité de ces disparités ou de ces variantes dans les manuscrits, parmi les manuscrits, sont les fautes d'orthographe. Donc, au lieu de, vous savez, le theta, donc au lieu de mettre la ligne dans le theta, on l'a oublié, donc ça fait une faute d'orthographe, ça fait un omicron au lieu d'un theta. Okay? Ça, voilà, une faute d'orthographe. Ou des fautes de répétition, donc on dit, il a dit, donc on le dit deux fois, ou des fautes d'omission, où on écrivait là, et puis ça, ses yeux regardaient par là, et puis on commençait à dire là, et puis voilà, on a une partie qui était omise. Mais quand on fait comparaison avec d'autres manuscrits, on voit bien que c'est une erreur. Donc quand on supprime les fautes d'orthographe, les fautes d'omission, les fautes de répétition, on arrive à voir que pour le Nouveau Testament, on est exact à 99,9%. C'est presque, presque parfait. Et pour l'Ancien Testament, on est à 98,33% exact. C'est aussi presque parfait. OK? Nous pouvons donc être fiers. Hein? Surtout quand on regarde l'Antiquité avec la grande majorité des choses qui n'existent même pas, et avec ce qui a été transmis quand même en très peu de manuscrits, nous pouvons être fiers, et souvent ce qui a été transmis n'est pas en bon état. C'est-à-dire il y a beaucoup de changements, etc. Ce n'est pas toujours le même texte qui nous est arrivé quand on parle des choses qui sont dans le monde laïque. Mais quand on parle de ce qui est biblique, le texte est intégral. Et dans l'origine, la langue d'origine. Donc ça, on devrait être fier de cette réussite. Donc dans cette fierté, hein, nous pouvons remercier le Seigneur d'avoir fidèlement transmis et préservé sa parole à travers les siècles et à travers les millénaires. Donc maintenant, on va relire dans Psaume 12. Psaume 12, versets 7 et 8. Psaume 12, versets 7 et 8, nous lisons, « Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures. Un argent éprouvé sur terre au creuset est cette fois épuré. » Verset 8, « Toi, Éternel, tu les garderas. » Bon, ce n'est pas nous qui vont les garder. C'est le Seigneur qui s'occupe de cette question. Toi, Éternel, tu les garderas, tu les préserveras de cette race à jamais. Donc là, on a une affirmation que Dieu s'occupera de sa parole. Aussi dans Psaume 119 et le verset 89. Psaume 119 et le verset 89, nous lisons. À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. Donc, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. Je voudrais lire deux citations que je trouve importantes. J'espère que ça vous encourage. Donc, la première est comme ça, concernant le texte biblique. Donc, premier, c'est le texte biblique. Après, c'est le contenu biblique. Okay? Douter de l'exactitude du texte biblique c'est de vouer toute la littérature de l'Antiquité à l'obscurité, car aucun document ancien est aussi bien attesté bibliographiquement que le Nouveau Testament. Je ne sais plus où j'ai retrouvé cette citation. Le second concerne l'exactitude des données dans les récits bibliques. Donc, c'est une citation de l'archéologue Nelson Gluck qui a écrit « On peut affirmer catégoriquement qu'aucune découverte archéologique n'a jamais démenti une référence biblique. » Je résume les deux pensées. Non seulement le texte des Écritures est exact, mais son contenu est exact aussi. Maintenant, parlons un peu de ce qui se trouve dans la Bible. Okay? Il y a 66 livres divisés en deux langues. Il y a un petit peu en araméen aussi, mais globalement, c'est deux langues. Donc, avant Jésus-Christ, les livres sont en langue hébraïque, et après Jésus-Christ, les livres sont en langue grecque. Les 39 livres hébraïques prophétisent sur la venue du Sauveur parmi les descendants d'Israël. Et les 27 livres grecs, après Jésus, donc, racontent la venue du Christ ainsi que la signification de sa vie, sa mort et sa résurrection. Donc, il faut que je dise un petit mot concernant les apocryphes. Les livres dits apocryphes, ou dans l'Église catholique, on les appelle deutérocanoniques. Donc, ces livres se trouvent dans quelques éditions catholiques de la Bible, n'ont jamais fait partie des écritures juives. Ce sont des écrites anciennes, juives, en langue grecque, pas en hébreu, qui datent de l'époque hellénique, de l'époque grecque, juste avant la venue de Jésus. Ces livres ne sont pas inspirés de Dieu. Et à vrai dire, personne ne les considère comme tels. C'est pourquoi on les appelle deutérocanoniques, c'est-à-dire deuxième classe. Ils ne sont pas aussi inspirés que les vrais. Ça veut dire deuxième classe. Okay? Concernant l'archéologie, la Bible est comme une carte au trésor pour l'archéologue, parce que ces récits sont liés au temps et au lieu. Le caractère mythique y est entièrement absent de la Bible. Non. Donc, les chercheurs archéologiques ont toujours soutenu les récits qui se trouvent dans la Bible. Je vous donne deux exemples. Pendant un temps, les savants doutaient de l'existence d'Abraham et aussi des cinq rois en Genèse chapitre 14. Plus tard, par les fouilles des archéologues, on a découvert une stèle de l'époque d'Abraham qui comportait les noms de ces cinq rois inscrits dans le même ordre qui se trouve dans le récit de Genèse chapitre 14. Voilà une confirmation extraordinaire. Deuxième exemple, pendant le 18e et 19e siècle, les critiques de la Bible refusaient d'accepter que Moïse puisse être l'auteur des cinq premiers livres de la Bible. Selon les critiques, aucune forme d'écriture n'avait pas encore été inventée par l'humanité. Mais la découverte des grandes quantités de littérature cunéiforme datant parfois 3 millénaires avant Moïse, a finalement montré que cet homme, que la Bible dit instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, a en effet pu écrire les cinq livres de la Bible portant son nom. Ainsi, l'archéologie a tendance à encourager la foi par la confirmation des données bibliques. La Bible n'a aucune faute, ni généalogique, ni géographique, ni historique, ni chronologique. ce qui sort de la bouche de Dieu doit être vrai dans tous les domaines. Maintenant, dernier petit mot sur les prophéties. Okay? Nos journaux actuels, les médias, parlent souvent de la fin de notre planète. Ils nous mettent en garde contre l'évolution du soleil, contre les comètes errantes, contre l'ozone et maintes autres fins catastrophiques qui nous guettent constamment. Heureusement, aucune de ces fausses prophéties médiatiques ne se réaliseront jamais. En revanche, le caractère prophétique de la Bible, appuyé par l'exactitude de l'accomplissement de nombreuses prophéties, est une des raisons pour lesquelles nous croyons que la Bible est en effet la parole de Dieu. Dieu est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il connaît l'avenir de notre planète. Beaucoup de prophéties bibliques s'accordent sur la question de la fin des temps. La Bible nous dit avec certitude l'avenir de chacun, aussi bien que l'avenir de notre planète, voire l'univers. L'Évangile est le plan de Dieu pour sauver l'homme. Avant la création, Dieu a conçu un seul plan pour la rédemption de l'humanité. Tout au long de l'Ancien Testament, Dieu a prophétisé ce plan. Jésus-Christ est la réalisation du plan. Sa mort et sa résurrection historique sont l'accomplissement de ce plan. Non seulement il efface nos péchés, mais il donne la vie éternelle. Il nous aide à travers notre vie quand nous nous soumettons à ses enseignements qui sont écrits dans la parole de Dieu. Et il nous prépare une place éternelle auprès de lui au ciel. Donc grâce à l'Évangile, vous avez tout à gagner et rien à perdre. Je voudrais lire dans Jean, Évangile, Jean chapitre 1. Jean, l'Évangile, chapitre 1, verset 18. Nous lisons « Personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique, qui est dans le sein du Père, et celui qui l'a fait connaître. » Jean, chapitre 8, et verset 51. Jean, chapitre 8, et verset 51. Là, nous lisons, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Et Jean chapitre 17 et verset 17, Jean chapitre 17 et verset 17, sanctifie-les par ta parole est la vérité. Frères et sœurs, vous pouvez être fiers de notre Dieu, de ses Écritures, et du fait que Dieu a préservé sa parole comme il a promis. Je voudrais vous dire que ce serait bien que vous pensez à inviter vos amis, vos collègues, etc., pour visiter l'exposition. Beaucoup de personnes, comme j'ai dit au début, beaucoup de personnes aimeraient que Dieu se révèle, qu'il nous dit quelque chose. Eh bien, il l'a déjà fait. Il l'a déjà fait. Par sa parole écrite et par son Fils Jésus, hein, les gens ont besoin du message de Dieu.